Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
La vérité, rien que la vérité. Le nouveau ministre des Comptes publics a dressé hier devant la Commission des Finances un état des lieux alarmant avant d'évoquer son futur plan d'action.
Première vérité, c'est qu'en 2024, le déficit public risque de dépasser les 6% du produit intérieur brut. Nous redresserons les comptes en réduisant nos dépenses d'abord et prioritairement. Mais par ailleurs, nous engagerons bien un travail sur la justice fiscale.
Des mots choisis qui n'ont pas manqué de faire réagir dans les rangs de la droite.
Parler de justice fiscale est une première étape pour rassurer, mais moi je voudrais vous entendre parler de baisse de la fiscalité. Nous sommes déjà le pays le plus fiscalisé du monde.
Sauf que baisser les impôts, ce n'est pas l'option retenue par Michel Barnier. Le Premier ministre a au contraire levé un tabou dimanche soir en évoquant des hausses de prélèvements ciblées.
Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation. Je ne vais pas exclure que les personnes les plus fortunées participent à cet effort national.
Mais qui sont ces riches, entreprises ou particuliers, qui pourraient être mises à contribution? Question posée au ministre de l'économie.
Il y a des gens qui nous écoutent ce matin et qui se disent « Est-ce que si je gagne 5000 euros, je vais voir mes impôts augmenter l'année prochaine ?»
Réponse floue.
Et c'est une question extrêmement légitime à laquelle nous apporterons une réponse très vite.
Vous l'avez pas pour l'instant.
On y travaille. Le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, y reviendra sans aucun doute.
Alors, quelle piste le Premier ministre va-t-il mettre sur la table mardi prochain? Augmentation des impôts sur le revenu, sur les capitaux ou encore majoration des droits de succession, comme le préconisent l'ONG Oxfam et la Cour des comptes. Le nouveau gouvernement marqué à droite est-il prêt à faire payer les riches au nom de la justice fiscale?
Et bien justement, nos trois invités, à commencer par Cécile Duflot. Bonsoir Madame, directrice générale d'Oxfam France. Oxfam qui dévoile aujourd'hui un manifeste actualisé avec 16 propositions pour augmenter les impôts et les taxes afin de récupérer plus de 100 milliards d'euros par an. Pour vous, quand on dit faire payer les plus riches, il faut que ce soit des milliardaires qui soient concernés, car le potentiel fiscal est le plus important, avec au moins 160 milliards rien qu'en taxant les successions. Vous expliquerez ça à Philippe Manière, votre voisin.
Je ne suis malheureusement
Bonsoir,
pas concerné.
Bonsoir Philippe Manière, président de la société de conseil VAE Solis Communication. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Montaigne et vous trouvez cocasse, c'est votre mot, le projet de faire payer les riches dans un pays où ils payent déjà beaucoup, où ils sont déjà beaucoup taxés. Selon vous, c'est surtout les macronistes que Michel Barnier va devoir convaincre, plus que les républicains par ailleurs, sur le plan politique. Et enfin, Adrien Matou, bonsoir monsieur, rédacteur en chef du service politique à l'hebdomadaire Marianne. Selon vous, il est risqué en France de vouloir faire payer les riches, même si, vu la situation financière catastrophique, eh bien Michel Barnier doit trouver quelque part de l'argent. Et on démarre avec un chiffre, évidemment.
Oui, c'est un sondage commandé par votre ONG. Cécile Duflot, Oxfam France, et qui dit ceci: 4 Français sur 5 sont favorables à une taxation plus importante des personnes les plus fortunées, 78% des Français précisément, une immense majorité d'entre eux donc. Mais qui sont-ils donc, Cécile Duflot, ces riches? Quand on prend les données de l'INSEE estime qu'il y a 4 700 000 Français qui sont aujourd'hui considérés comme riches en revenus, avec plus de 3 860 euros mensuels.
Il y a deux sujets, il y a le revenu et le patrimoine. Il faut bien distinguer les deux, c'est fondamental, parce que ce qu'on vit en France depuis quelques années, c'est une augmentation très importante du patrimoine des plus riches parmi les plus riches, au détriment de plein de sujets, dont notamment la possibilité d'avoir accès à un logement pour l'immense majorité des personnes. Nous, le manifeste qu'on présente, il ne produit aucune augmentation d'impôt sur 70% de la population. Pour donner les chiffres.
Mais ça en laisse 30%.
Ça en laisse
30%.
Ce n'est pas que des milliardaires, 30%.
Non, ce n'est pas que des milliardaires. Donc, il y a une partie de gens qui sont... Donc, le seuil...
Le 0,1% des plus fortunés.
Ça, c'est sur la fiscalité sur les successions. Vous en avez parlé.
On en parlera tout à l'heure.
La semaine dernière. Parce que là, c'est là que, je pense, ce n'est pas une anecdote si la Cour des comptes, le CAE et d'autres gens disent qu'il y a un sujet.
D'accord.
Parce qu'il y a la moitié des milliardaires français qui ont plus de 70 ans, qui vont donc donner leur patrimoine à leurs successeurs. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup moins taxés en pourcentage que quelqu'un qui donne 25 000 euros à son neveu, par exemple. Et ça, pour nous, ce n'est pas normal. Donc oui, le sujet numéro un aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont payé beaucoup, beaucoup moins d'impôts ces dernières années. Mmh. Ils ont bénéficié de beaucoup de dispositifs, les plus riches parmi les plus riches, mais également les très grandes entreprises. Mmh. Et donc, c'est pour ça, je pense, que même le Premier ministre est résolu à avancer sur ce sujet.
Philippe Magnin, à propos de chiffres, le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises, apparemment, en 10 ans, est passé de 400 milliards d'euros à 1200 milliards d'euros. Est-ce que, effectivement.
C'est pas très surprenant parce que les.
Ça n'est pas très surprenant, mais est-ce qu'on peut comprendre, effectivement, qu'il y ait une interrogation sur une taxation ou quelque chose autour
oui,
de.
Oui, alors.
C'est super, super.
Moi, ça m'amuse toujours qu'on se pose la question, vous le disiez tout à l'heure, de l'opportunité de taxer les riches, parce qu'on les taxe quand même. Il ne faut pas non plus laisser croire à nos auditeurs qu'on vit dans un pays où les riches ne sont pas taxés. Ils sont taxés. Alors, comme le disait très justement Cécile, le patrimoine et le revenu, c'est très différent. Le revenu est très fortement taxé, le patrimoine l'est un peu, mais comme partout dans le monde, il l'est beaucoup moins qu'il l'a été avant, pour des raisons de concurrence. C'est-à-dire qu'on a très bien vu ça au fil des 25-30 dernières années. Il y a beaucoup de pays maintenant où le patrimoine n'est pratiquement pas taxé, ni à la détention, ni à la transmission, en particulier au moment de la succession. Et donc, c'est vrai que même si on pense, et c'est mon cas, que l'impôt le plus justifiable, c'est celui qui permet de remettre un peu les compteurs à zéro au moment de la disparition de quelqu'un, même s'il a beaucoup de mérite et qu'il s'est beaucoup enrichi, il faut bien considérer du point de vue de l'État, si vous taxez trop les gens sur la détention ou sur la succession, devinez quoi, ils vont partir, détenir ou succéder ou organiser leur succession ailleurs. Donc là, si vous voulez, ce n'est pas une question d'opportunité morale, c'est une question de comment on attrape des anguilles.
Mais pardon, on n'a toujours pas compris qui étaient les riches, Cécile Duflo. Est-ce qu'un Français qui gagne 5000 euros net par mois, par exemple, aujourd'hui, c'est conséquent? Est-ce que vous estimez qu'il doit participer davantage à l'effort national?
Alors, s'il vit seul, dans notre dispositif, il contribuera de façon marginale.
Il contribue déjà beaucoup. Hein.
Mais la question, ce n'est pas qui contribue peu ou beaucoup. C'est de savoir, est-ce que c'est juste? Parce qu'en pourcentage aujourd'hui, les 10% les plus pauvres payent beaucoup plus d'impôts, notamment via la TVA,
indirect.
Que les plus riches.
Mais pas l'impôt sur le revenu.
C'est quand même de l'impôt.
À travers la TVA,
tout le monde paye la TVA, c'est ça.
Oui, mais sauf qu'en pourcentage de ces revenus, c'est plus important. Donc, si vous me posez la question de savoir est-ce que notre cible principale, c'est les gens qui gagnent 5000 euros, je vous réponds non, pas du tout.
Mais ça en
fait
partie.
Si on lit les 16 propositions du manifeste dont vous avez parlé, vous verrez que ça concerne évidemment les super-profits, ça concerne les niches fiscales qui sont des niches qui avantagent les plus riches. Et là où je ne suis pas d'accord avec mon voisin, c'est que l'impôt est progressif jusqu'à une certaine limite où il devient très dégressif.
Une limite très, 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 très élevée.
Exactement.
Tous les rapports qui dénoncent ça, la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que jusqu'à 99%, c'est très progressif. 99% même plus.
Sauf
pratiquement
que sur 99,5%. Il y a un potentiel fiscal considérable. C'est ça qu'il faut comprendre.
Oui, mais on tombe sur le problème que j'évoquais tout à l'heure.
Adrien Matou, il faut dire que notre pays, on est toujours le riche de quelqu'un aujourd'hui. C'est aussi cela qui se passe. Et ça peut être aussi la difficulté à définir cette catégorie de riches et à leur imposer une justice, à imposer une fiscalité juste. Est-ce aussi cela le problème?
C'est peut-être l'héritage catholique français, c'est-à-dire que personne ne se considère comme riche en France. Et il y a une expression qui est utilisée par la droite depuis une trentaine d'années, qui est la classe moyenne. Et la droite s'appuie sur le fait que tout le monde se pense de classe moyenne, même des gens qui gagnent 5, 6, 7 000 euros par mois se pensent très sincèrement de classe moyenne. Ils n'en font pas partie. Mais quelque part, et c'est vrai que les riches, au sens réel du terme, on va dire, je crois que l'Observatoire des inégalités dit 3860 euros par mois de revenus. Alors, c'est que les revenus, ce n'est pas le patrimoine. On gagne deux fois le salaire médian, donc à partir de là, on est riche. Ça fait à peu près 7% des Français.
C'est vraiment une définition très conventionnelle au sens littéral.
Voilà. C'est-à-dire que c'est quasiment la définition de François Hollande.
Si vous avez hérité d'un logement, que vous ne payez pas votre logement, ou si jamais vous devez chaque mois payer un loyer de 1200 euros, vous n'êtes pas du tout dans la même situation. C'est pour ça que faire abstraction du rapport patrimoine et juste revenu, et parler juste revenu, c'est de notre point de vue, c'est passer à côté d'une grosse partie de l'histoire.
C'est pour ça que les droits de succession, c'est un levier absolument essentiel. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir, quand Michel Barnier dit « je vais mettre à contribution les plus fortunés », est-ce qu'il parle des 0,1%? Mais c'est vrai que, honnêtement, notre système est... Alors, moi, je trouve qu'il est moins progressif que ce que vous dites. Il n'est pas très progressif parce que les 10% les plus pauvres payent à peu près le même pourcentage en termes de prélèvement obligatoire que les plus riches. Par contre, ça descend, ce qui est incroyable quand même, à partir des 0,1%. Et ça, c'est quand même le gros problème.
Alors,
99,9% payent à peu près la même proportion et les 0,1% payent moins.
Il faut quand même se réjouir et se satisfaire de ce que, sur plus de 99%, ce soit progressif.
Mais je ne trouve pas ça si progressif que ça.
Ah si,
alors, ça serait pas progressif. Juste une question, parce que certains de ceux qui nous regardent vont peut-être bondir, mais aujourd'hui, on dit que certains retraités les retraités font partie de ceux qui sont les plus favorisés dans la société parce qu'ils bénéficient eh bien, de retraites qui sont plus conséquentes que certains actifs. Est-ce que, parce qu'il n'y a pas de... Et que certains disent qu'il faudrait une désindexation de leur retraite sur l'inflation pour permettre aussi aux caisses de l'État de se remplir. Est-ce que cela, vous êtes d'accord ou pas ?
C'est assez faux parce que ceux qui ont des retraites assez substantielles, ça n'est pas la retraite de base, ce sont des retraites complémentaires qui sont des retraites privées. Et là, ce n'est pas du tout géré par l'État. Donc, et d'ailleurs, vous allez rire, quand ce n'est pas géré par l'État, c'est en excédent. Donc, il n'y a pas véritablement de problème.
Comme
Arco. C'est financé par des cotisations, mais justement, j'y viens. C'est-à-dire qu'en plus, ce sont des droits qu'ils ont acquis par leurs cotisations. Donc, aller leur demander de ne pas revaloriser leur pension, d'accepter qu'on ne revalorise pas leur pension, alors que c'est un régime privé qui est à l'équilibre et qu'ils ont cotisé toute leur vie, ça me paraît quand même un peu violent.
Si pas
et pour finir, je voudrais qu'on dise un mot sur favoriser. Qu'est-ce que ça veut dire favoriser? Ils ont été favorisés par quoi? Si ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ont beaucoup cotisé et qui du coup ont droit à une retraite qui correspond plus ou moins à leur cotisation, je ne vois pas en quoi on peut dire qu'ils sont favorisés. Alors, ils ont la chance de ne pas être pauvres, c'est un fait. Enfin, les considérer comme, je veux dire, pratiquement des assoiffeurs du peuple au seul motif qu'ils ne sont pas aussi pauvres que d'autres qui sont plus pauvres, c'est un peu violent tout de même.
Moi, je considère personne comme des assoiffeurs du pauvre et surtout pas les retraités.
Non, mais je plaisante,
en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bénéficié, notamment, parce que je pense qu'au cœur de la situation dans laquelle on se trouve, il y a une augmentation phénoménale du coût du logement. On avait publié un rapport il y a quelques mois pour montrer que c'était le carburant de toutes les inégalités. Vous n'êtes pas du tout dans la même situation avec 3 800 euros. Si vous êtes, vous avez hérité de 3 logements, vous en louez 2 et il y en a un que vous habitez.
C'est pas tout le monde, ça.
Hein. Non, ça n'est pas tout le monde. Et le problème, c'est que justement, aujourd'hui, le patrimoine se concentre et la richesse se concentre. C'est ça qui se passe en France et ça n'était pas le cas il y a 40 ans. Donc, comment on remet un peu de justice dans ce système? Et honnêtement, et je fais totalement écho à ce que vous venez de dire, le sujet, il se situe très au sommet de la pyramide. Donc oui, c'est plus difficile, notamment quand des milliardaires possèdent des médias et sont capables, notamment sur la question des successions, c'est très intéressant. Le débat a été alimenté en disant les Français détestent les droits de succession, ils considèrent que cet impôt est injuste. En fait, quand on dit c'est au-delà de 13 millions d'euros, le débat, c'est pas le même. Et le potentiel fiscal, il est vraiment là. Et donc, il faut affronter cette réalité et se dire que... une grande partie de ces ultra-riches ne vont pas partir, notamment parce qu'un certain nombre de leurs actifs sont basés en France. Si je peux donner juste un exemple,
ce qui
est problématique pour les droits de succession, c'est ce qu'on appelle le pacte Dutreil, qui était une très bonne idée. Il faut éviter que les héritiers soient obligés de vendre les entreprises françaises. Sauf que c'est devenu une trappe à n'importe quoi. Au fil de petits amendements, aujourd'hui, vous faites une holding, vous mettez des châteaux dedans, et ça devient des biens professionnels. Et vous savez quoi? Ceux qui nous l'ont expliqué, c'est des avocats fiscalistes qui, certains d'entre eux, considèrent que c'est devenu un peu inacceptable, la situation.
Vous vouliez réagir, Adrien Matou, avant qu'on avance avec Anna?
Sur le sujet des retraites, parce qu'il est en train d'émerger dans le débat public, alors que c'était un tabou absolu. À mon sens, c'est une bonne chose, parce que, honnêtement, les retraites, le niveau des retraites en France n'est pas juste le fruit d'un travail extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on a un système par répartition. Ce qui fait que la génération des baby-boomers, qui était extrêmement nombreux, il y avait peu de personnes âgées à l'époque, les francs à l'époque qu'ils ont cotisés valent beaucoup plus que ce qu'on cotise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les retraites des baby-boomers ne sont pas financées par ce qu'ils ont cotisé. Elles sont financées par ce que les gens cotisent.
Oui.
Et les cotisations sociales, là, je pense que vous serez d'accord avec moi, Philippe Manière, les cotisations sociales sont extrêmement élevées et la France est un des seuls pays au monde où les retraités ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs.
Je vous vois très intéressé, Philippe Manière, mais c'est un débat dans le débat, on le refera une autre fois, parce qu'on va avancer et on va évoquer avec Anna les pistes de Bercy, notamment par rapport à cette augmentation éventuelle des impôts.
Oui, car le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, espère récupérer jusqu'à 21 milliards d'euros de recettes fiscales, c'est ce qu'on apprend dans un article du Figaro, et cela grâce à plusieurs leviers. Le premier, c'est les entreprises. Le gouvernement envisage de réviser temporairement le taux de l'impôt sur les sociétés. Actuellement, il est à 25% et il pourrait augmenter de 3 points. On va faire des mathématiques, ça pourrait rapporter 7 milliards d'euros. Ensuite, les charges patronales pourraient également être augmentées, plus 4 milliards d'euros donc dans les caisses de l'État. Et certaines niches fiscales dont vous parliez tout à l'heure pourraient disparaître, notamment l'exonération des droits de transmission d'entreprise et le crédit d'impôt, donc 500 millions d'euros au total. On le voit, c'est près de 12 milliards d'euros de recettes fiscales grâce aux entreprises. Maintenant, du côté des particuliers... Comme vous voulez. Bercy, du côté des particuliers, Bercy pourrait geler le barème là, de l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus aisés, mais sans préciser qui sont ces ménages les plus aisés. Donc là, 4 milliards d'euros. puis la flat tax, qui taxe à 30% les revenus du capital des personnes physiques, pourrait être relevée de 5 points, c'est 2 milliards d'euros, donc au total 6 milliards d'euros. Et enfin, il est aussi question de remettre en place la taxe sur l'acheminement de l'électricité, qui concerne les fournisseurs et producteurs d'électricité, mais aussi les particuliers, qui permettrait de récupérer 4 milliards d'euros. Adrien Matou, est-ce que ces mesures, vous pensez que c'est suffisamment équilibré entre les entreprises et les particuliers? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on pourrait aller plus loin?
Désolé, je vais revenir avec les actifs et les retraités parce qu'en fait, pour moi, c'est l'évidence même. Je pense que le tabou des retraites est en fait un tabou supérieur au tabou de l'imposition des riches. Mmh. Je vous donne juste un exemple. En janvier dernier, on a indexé les retraites, toutes les retraites, sans exception, sur l'inflation. Ça a coûté 14 milliards d'euros, donc quasiment les deux tiers de la somme que vous avez dite. Pourtant, un retraité sur cinq a un niveau moyen de 3 860 euros par mois. Alors évidemment, il y a beaucoup à faire sur les 0,1%, ça je suis 100% d'accord avec ça.
Il paye des impôts sur sa retraite, tout de même. Ouais. Donc il paye l'impôt progressif qu'on évoquait tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'il faut quand même revenir à la question que vous posiez. Moi, la question que je me pose en amont sur partage entre l'effort fiscal demandé aux ménages et aux entreprises, c'est la répartition entre l'effort fiscal et l'effort de l'État pour réduire les dépenses publiques. Enfin, on est quand même dans un pays où la fiscalité est la plus élevée d'Europe, ou à peu près sur tous les critères. On est dans un pays où la dépense publique est la plus élevée d'Europe. On est dans un pays où, à part un seul dans le monde, on redistribue. C'est là où il y a l'effort de redistribution le plus massif. Donc l'idée que quand on a un problème de budget, Dieu sait qu'on en a un, on augmente encore une fiscalité qui est record et qu'on n'envisage pas de baisser les dépenses publiques qui sont records, c'est assez dingo. Or, vous venez de le dire vous-même, c'est le papier du Figaro, on verra si c'est confirmé. Dans l'état actuel de ce qu'on connaît, c'est 21 milliards de prélèvements fiscaux supplémentaires dans un pays qui est déjà surtaxé. C'est ça que j'arrive pas bien à comprendre. C'est comment se fait-il que la réponse à un problème de déficit soit systématiquement l'augmentation de la fiscalité
et l'augmentation de la fiscalité des entreprises.
Mais on a beaucoup baissé, ça ne nous empêche pas d'être à un niveau record. Et donc, pardon, je finis juste là-dessus, taxer les entreprises, ce n'est pas juste sympa parce que comme les entreprises ne votent pas, on peut toujours les rincer, etc. Il y a un impact, c'est-à-dire que vous allez avoir moins d'investissements, moins d'emplois, moins d'investissements étrangers qui viennent en France, etc.
Donc, c'est quand même très embêtant. C'est-à-dire que ça peut décourager des entreprises de rester en France ou d'investir davantage.
Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités en France. Il y a de l'activité en France grâce aux consommateurs français. Donc il y a une espèce d'ambiguïté.
Il y a aussi beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent parce que la France est attractive.
Exactement. Mais on voit bien notamment ce qui s'est passé en matière de désindustrialisation, c'est que tout un tas de choix fiscaux ne se sont pas transformés en investissement, se sont transformés en distribution de dividendes.
Non,
c'est pour ça que...
Ça, c'est vraiment faux, ça.
Alors, pour le coup, la France a battu beaucoup de records sur la distribution de dividendes et sur les rachats d'actions. Et donc, ce qui nous semble manquer dans un certain nombre de ces propositions, c'est deux choses. D'abord, de pouvoir quand même essayer de nuancer entre certaines entreprises, les plus petites entreprises et les plus grandes, notamment sur l'IS, avec la taxation des super-profits. Il y a un dispositif qui avait été mis en place.
Qu'est-ce que c'est qu'un super-profit ?
Un super-profit, c'est un profit qui n'a aucun lien avec des gains de productivité ou avec des succès commerciaux.
Qui concernent par exemple des entreprises qui sont dans les énergies fossiles et qui depuis la guerre en Ukraine ont créé un
corps d'inspecteurs pour savoir quel est le degré de légitimité d'un accroissement
du
profit.
Par ailleurs, il y a plein de pays qui l'ont fait.
Ah
et
bon
notamment parce que la France
quel
a été, et nous, nous l'avons soutenu, la France a été très, très soutenante des entreprises, et l'Europe aussi, avec une politique massive de rachat d'actifs pendant le Covid. Mais quand vous revenez à bonne fortune, la solidarité inversée, elle est nécessaire, parce que les entreprises ont trouvé ça parfaitement normal qu'on socialise totalement les salaires, qu'on nationalise les salaires grâce au chômage partiel pendant le Covid. Et nous avons soutenu ces démarches-là, mais une fois que la situation s'est beaucoup améliorée, il est légitime de pouvoir
contribuer à l'effort.
Des contributions exceptionnelles, c'est ce dont Michel Barnier parle. Encore faut-il qu'il arrive à convaincre son camp, c'est pas gagné. Écoutez Gérard Larcher, le président du Sénat.
A été envisagé, nous verrons s'il y a un débat, qui est une fiscalité sur certaines grandes entreprises. Oui. Écoutez, moi je reste avec mes lignes rouges, parce que sinon nous ne ferons jamais d'économie sur les dépenses publiques. En fait, dans ce pays, nous n'arrivons jamais à rentrer dans ce réflexe d'abord réduire les dépenses. C'est ça, ma vraie ligne directrice.
Adrien Matou, la difficulté de Michel Barnier, ça va être de convaincre son camp. D'abord, la droite, celui dont il vient, sur la fiscalité.
Bien sûr, alors surtout sur la fiscalité. Mais c'est assez amusant la posture de Gérard Larcher, parce que
les dépenses publiques, il y a trois types de dépenses publiques, il y a les collectivités locales, la protection sociale et les dépenses publiques. Alors, on peut évidemment faire des efforts sur la dépense publique, il doit y avoir bien des doublons, des postes non efficaces, mais en pourcentage du PIB, la masse salariale de la fonction publique est stable depuis 40 ans. C'est toujours, elle est à 13% du PIB, ça ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui explose depuis une trentaine d'années? C'est la protection sociale, donc les dépenses de santé et de retraite. Les dépenses de retraite, c'est une ligne rouge de LR
ça,
qui a dit...
On a compris que c'était important pour vous, et c'est vrai que ça fait partie.
Je rajoute que LR a dit, c'est une ligne rouge, on ne voudra pas qu'elle baisse. Donc d'un côté, il dit, j'ai une ligne rouge, il faut qu'on baisse la dépense publique, et de l'autre, j'ai une ligne rouge, je ne veux pas que ce qu'on baisse, ce soit ce qui augmente dans la dépense publique. C'est périlleux comme...
De manière, ça ne vous interpelle pas.
Il y a 430 agences dont on ne sait plus exactement ce qu'elles font quand vous avez l'explosion, enfin tout le monde connaît cette histoire de millefeuille territoriale, c'est une réalité. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas...
Mais ça ne vous interpelle pas tout de même que ce soit un homme de droite, aujourd'hui...
Ah pas du tout, moi ça ne me surprend pas.
Alors pourquoi ? Qui fasse tomber le tabou des impôts et d'augmentation des impôts.
Ah oui, Michel Barnier. Malheureusement, track record, pardonnez-moi cet anglicisme de la droite, dans cette matière, il est très mauvais. C'est Alain Juppé qui avait plafonné le plafonnement de l'ISF, c'est Alain Juppé qui avait augmenté massivement les impôts, etc. En gros, si vous faites exception de François Hollande, qui est un homme de gauche qui a augmenté les impôts, sur les 30 dernières années, c'est presque toujours la droite qui augmente les impôts. Et c'est la droite qui les diminue, la gauche qui les diminue et la gauche qui privatise. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que la droite en France, pour des raisons historiques sur lesquelles on ne va pas s'étendre ce soir, n'est pas libérale. Elle ne croit pas beaucoup à l'économie de marché. Alors moi, j'ai l'espoir que Michel Barnier essaye de faire quelque chose d'un peu équilibré. Il sait ce que c'est, il a beaucoup travaillé à l'Union européenne. Généralement, les hommes politiques qui passent par Bruxelles sont un peu déniaisés sur ce sujet. Ils deviennent un peu moins marxiste, anti-privé, etc. Pardon, j'y vais à la
serre. Ça, c'est pour vous, Cécile Duflot.
Ça n'a pas marché.
C'est vous qui dites, paradoxalement, merci Michel Barnier.
Mais ce que je veux dire, c'est possible qu'on ait quelqu'un qui soit un peu plus nuancé que d'habitude. Mais la droite, généralement, elle n'est pas tellement, malheureusement, rétive à augmenter les impôts.
Barnier, Oxfam, même combat. Si on résume.
Nous, on a été rattrapés quand même. On a été rattrapés. Quand le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz est sorti, il a expliqué que pour financer la transition écologique, il fallait un impôt exceptionnel sur les plus riches. Ce n'est pas un rapport Oxfam. Sur la taxation, sur les successions, c'est des organismes qui n'ont pas l'habitude. C'est la Cour des comptes, c'est le CAE qui le disent aussi. Parce qu'à un moment, il y a un principe de réalité. Et vous pouvez dire ce discours sur il y a tant d'agences, il y a tant... Les exemples récents sont assez intéressants sur la comparaison de l'efficacité de la dépense publique et de la dépense privée. Ce qui se passe autour à la fois des crèches et des EHPAD montre quand même qu'on a un énorme sujet quand on parle de services publics et de qualité des services publics. Quand vous êtes obligé maintenant, parce qu'on parle des...
Bah là, le scandale à propos des crèches, c'est une entreprise privée.
Bien sûr, c'est ce que je dis. En même temps, il y a des déserts médicaux
partout en France.
En revanche, si on regarde...
C'est vraiment un autre sujet.
Non, ce n'est pas un autre sujet. C'est l'efficacité de l'argent public, en fait, sur des politiques qui sont des politiques publiques. Mais donc, je termine. Est-ce que ça nous surprend ? Non, parce qu'il y a une réalité. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même eu le même ministre de l'économie pendant 7 ans, qui a donné des leçons à la terre entière, qui nous a regardés avec beaucoup de morgue, aux résultats qu'on connaît, parce que c'est quand même ça, la réalité, et dont on voit bien que ceux qui ont dit depuis des années, en fait, supprimer l'ISF et baisser les APL, à un moment, ça ne tient plus, c'est exactement la réalité qu'on connaît.
Tout de même, taxer davantage ceux qui ont aujourd'hui plus que d'autres, est-ce que ce n'est pas aussi travailler sur le consentement à l'impôt, le favoriser aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'impôt? Est-ce que vous l'entendez, cet argument-là?
Il n'y a pas tellement de défiance vis-à-vis de l'impôt. Enfin, vous savez qu'une des raisons pour lesquelles la France emprunte pas très cher, malgré la catastrophe des comptes publics qu'évoquait ma voisine, c'est que précisément, l'international nous fait confiance pour lever l'impôt. On est très, très bon pour lever l'impôt. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais je suis sensible à l'argument intellectuel et moral, si vous voulez. Simplement, on n'est pas dans un état où ce serait scandaleux parce que tout le monde paye la même chose. Les riches payent beaucoup plus d'impôts proportionnellement à leurs revenus que les autres.
Pas les ultra-riches.
Sauf les ultra-riches. Mais voyez bien qu'on est en train de...
Oui, mais c'est un gros potentiel fiscal.
Non, je ne crois pas tellement. Pour les gens, ils risquent de partir. Mais je vois bien l'enjeu symbolique. Je vois bien qu'il y a certainement des fuites à colmater. Je ne dis pas le contraire. Mais ne partons pas de l'idée qu'il faut absolument faire un impôt progressif parce qu'on n'en aurait pas. On a l'impôt le plus progressif d'Europe.
Bon, ils ne seront pas d'accord. On refera un débat. Et en tout cas, c'était formidable.
Il y a des choses qui sont vraies.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.